Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir le délégué de l'Association d'économie financière, Antoine Mérieux. Antoine Mérieux, bonjour.
Bonjour.
Pour la parution de son rapport moral annuel de l'argent dans le monde, dont c'est la 17e édition. C'est bien ça.
Exactement.
Très bien. Ce rapport moral est devenu au fil des années un grand classique et sa parution est très attendue, tant par les professionnels de la finance que par tous ceux, étudiants ou acteurs de l'économie, qui s'intéressent à l'actualité sous toutes ses formes et hélas aussi sous ses dérives et dont la délinquance en est une forme d'expression. Alors, cet ouvrage se réalise conjointement avec la Caisse des dépôts et consignations, dont l'ancien directeur général Augustin de Romanet a beaucoup œuvré à vos côtés pour la promotion et la qualité de ses parutions, qui en outre bénéficient de contributeurs et d'auteurs de très grande qualité, qui font que ce rapport moral sur l'argent dans le monde est devenu une force de proposition, selon votre expression, au service de l'intérêt général et du développement économique de la France, en même temps qu'un outil efficace pour lutter contre la criminalité financière qui, selon encore Augustin de Romanet, représente une véritable menace pour notre état de droit et la vie en société. Alors voilà le contexte historique. Alors on va rentrer dans le détail de ce rapport, mais avant peut-être nous rappeler ce qu'est l'Association d'économie financière et peut-être ses hommes et ses publications. En quelques mots.
Très bien, écoutez, merci de me donner l'occasion de présenter cet ouvrage qui est effectivement un rendez-vous annuel attendu, puisque nous avons quand même un lectorat très suivi. C'est donc effectivement un produit qui est commandé chaque année à l'Association d'économie financière par la Caisse des dépôts et consignations. Et alors, un mot sur l'Association d'économie financière. Nous sommes une association de place, en ce sens que la plupart des grandes institutions et superviseurs de la sphère financière à Paris sont représentés, Banque de France, Caisse des dépôts, AMF, et de même les grandes fédérations professionnelles. Et l'objectif de l'association, c'est de produire tous les trimestres une revue, qui s'appelle la Revue d'économie financière, qui est un lieu d'échange et de dialogue sur les grands sujets d'actualité, avec notamment entre les professionnels et les universitaires. Et nous avons par ailleurs donc annuellement ce produit qui s'intéresse à la dimension éthique des activités, les enjeux éthiques associés aux activités financières. Et là, c'est pas un produit de place, c'est un produit Caisse des dépôts, mais sous le thème de l'Association d'économie financière.
Alors je rappelle d'ailleurs qu'une de vos publications, la Revue d'économie financière, j'ai plaisir à le rappeler, a été distinguée avec un grand prix d'honneur à titre collectif par le prix Turgot du meilleur livre d'économie financière cette année à Bercy. Alors encore félicitations et vous avez été distingué par ailleurs pour une autre raison, tant que je me souviens.
Pas l'Académie, le prix Rossi, oui, effectivement, mais qui n'est pas...
Que de lauriers, en tout cas bravo. Alors, nous allons maintenant en venir plus particulièrement donc, au contenu de ce rapport moral sur l'argent dans le monde. 472 pages, 31 euros, donc c'est un document volumineux. Et donc cet ouvrage a deux grandes parties. Une première partie qui traite effectivement de la lutte contre la criminalité et les délits financiers, et une autre partie qui est en plusieurs sous-chapitres, qui touche plus aux aspects éthiques. Alors, premier point, la délinquance. Alors l'originalité de cette année peut-être, c'est de replacer cette délinquance dans un contexte de crise. En quoi la crise modifie la criminalité, si tant est qu'elle le fasse?
Voilà, alors les deux derniers rapports sur l'argent dans le monde, rapport moral sur l'argent dans le monde, étaient centrés sur la problématique de la crise. On était au cœur des événements et donc il apparaissait important d'apporter notre éclairage propre, puisqu'on voit bien la dimension des dérives éthiques qui ont contribué largement à la crise. Alors, nous avons cette année un angle un petit peu différent, parce qu'il peut y avoir des dérives éthiques qui s'expriment, je dirais, dans le cadre de la réglementation existante, qui ne sont pas des véritables délits, c'est simplement des comportements individuels, parfois collectifs, qui d'avidité sans foi ni loi, mais qui restent, je dirais, dans les clous de la réglementation. Bon, ça c'est une dimension naturellement la plus importante dans les facteurs de risque. Mais il y a quand même, et ça a été l'objectif de ce rapport, toute la dimension délictuelle, voire criminelle, qui a pu s'exprimer à travers la crise. Et il nous a paru important de faire un focus tout particulier sur cette dimension-là, parce que finalement, elle est assez peu traitée. Et ce que l'on a montré, c'est que même si la délinquance financière n'est pas la cause principale de la crise, elle a pu contribuer à sa matérialité. On a vu les dérives sur les marchés hypothécaires américains, où là, il y avait des comportements qui étaient totalement contraires à la réglementation. Certes, la réglementation était légère, mais au-delà de ça, elle n'était pas respectée. Et ça a été un des facteurs importants de déclenchement de la crise. On a eu aussi le même type de phénomène au niveau global. Quand on voit ce qui s'est passé pour l'adhésion de la Grèce dans la zone euro, il y a eu des comportements, alors là, même au niveau des pouvoirs publics, mais aidés par des grandes banques, de tromperies qui ont contribué et qui contribuent encore aujourd'hui à créer des problèmes. Donc, il y a, au-delà de la réglementation, il y a des comportements délictuels qui compliquent considérablement la chose. Alors, non seulement ça peut contribuer au déclenchement, mais ça complique aussi la gestion. Parce qu'il y a toute une série de crimes ou de délits qui, naturellement, se répercutent sur la morale publique, sur la capacité des citoyens à faire des efforts. En période de crise, on leur demande des efforts. Quand ils ont le sentiment que ces efforts ne sont mal répartis parce qu'il y a des personnels politiques corrompus, parce qu'il y a toute une partie de la population qui est échappatoire pour ne pas payer leur éco, c'est donc la fraude fiscale notamment qui est en cause, on voit bien que ça devient beaucoup plus compliqué de faire accepter les sacrifices. Et donc on a voulu tout particulièrement mettre l'accent sur ces phénomènes.
Alors vous avez des remarques assez fortes, je vous cite. Le système financier n'est plus seulement victime de la criminalité. Certains de ses membres en sont partie prenante. Profitant de toutes les interstices laissées par les États, la criminalité profite de la faiblesse des États à travers notamment l'argent de la drogue pour s'organiser en force, parfois militaire, capable de les confronter. La finance est-elle victime ou complice de cette face noire de la mondialisation ? Donc c'est quand même fort.
Voilà. Alors, il y a effectivement, au-delà de la criminalité des financiers eux-mêmes, il y a aussi la grande criminalité qui transite inévitablement par le secteur financier, parce qu'à un moment ou un autre, cet argent doit émerger. C'est toute la problématique de la lutte contre le blanchiment. Et c'est parfois une criminalité qui annexe certains acteurs financiers. Il y a eu des grands scandales dans le passé, comme la BCCI, où véritablement des institutions étaient sous contrôle de la mafia. Alors, c'est moins le cas aujourd'hui, mais disons qu'il y a tout cet enjeu. Enfin, on sait l'importance du chiffre d'affaires de la drogue, du commerce de drogue dans le monde. Et donc, tout ça percole. On a dans le domaine même de la fiscalité des circuits de noria de TVA qui sont mis en place par la pègre et qui contribuent à des pertes fiscales absolument considérables pour les États, notamment en Europe.
Alors, de notre côté, la pression qui est exercée par l'administration fiscale, les États, la réglementation, a aussi entraîner une modification des comportements. C'est ce que vous dites, aussi bien du côté des conseils d'administration des grandes entreprises, où elles-mêmes prennent des dispositions beaucoup plus en phase avec ce qui peut être souhaité dans ce domaine-là. Donc il y a la pression commence à faire que les comportements, de gré ou de force, se modifient.
Alors il y a, si j'ose dire, deux phases de l'analyse. Il y a une première phase, effectivement, dont un article de Michel Talley se fait l'écho, qui est la phase un petit peu optimiste, qui consiste à dire que,
ça s'améliore.
Que ce soit au niveau des particuliers ou du niveau des entreprises, l'environnement a changé et il est devenu beaucoup plus difficile et pénalisant de frauder. Pour les particuliers, bon, la fin, entre guillemets, du secret bancaire, par exemple, en Suisse, rend les choses beaucoup plus compliquées. Il y a eu toute une série de scandales qui ont montré que le fisc se montrait beaucoup plus offensif. Et donc, il est devenu beaucoup plus risqué de s'affranchir d'un certain nombre de règles. Pour les entreprises, là, il y a aussi, en termes de gouvernance, des changements importants, puisqu'on demande, que ce soit les entreprises généralement quelconques, mais aussi aux grandes banques, de réduire ou de justifier leurs activités dans les paradis fiscaux. Donc, c'est devenu une responsabilité du conseil d'administration qui est redevable, qui doit rendre des comptes. Donc, de ce point de vue-là, la fraude fiscale est devenue un peu plus difficile à mettre en œuvre. Mais dans le même temps, l'environnement de la mondialisation les efforts, l'augmentation de la pression fiscale qui est exercée du fait de la crise sur les particuliers et sur les entreprises crée des différences d'imposition entre les États de plus en plus grandes et donc des tentations de plus en plus grandes. Donc vous avez ces deux dimensions-là. Et le rapport se fait l'écho des deux dimensions sans conclure. Et il y aura peut-être moins de fraude stricto sensu, mais l'évasion fiscale a sans doute encore de très beaux jours devant elle.
C'est ce que vous résumez d'une phrase. Les choses auraient-elles changé ? Point d'interrogation. La nouvelle agressivité des administrations fiscales et la levée du secret bancaire ont incité de nombreux fraudeurs, pour certains héritiers de cette situation, à se régulariser. De leur côté, les conseils d'administration des grandes entreprises, depuis Enron, font preuve de plus de vigilance, car ils doivent désormais rendre des comptes sur leur activité dans les paradis fiscaux. Alors, peut-être faire un lien tout de suite avec les paradis fiscaux. On en est où dans ce domaine qui agite toujours la...
Oui, allez-y. Je voulais juste rajouter un tout petit point. À l'occasion de ces scandales, il y a effectivement toute une partie de la population qui a hérité, par exemple, de fonds en Suisse ou ailleurs. Ouais. Et cet argent qui est géré de façon tout à fait particulière, par délégation à des établissements de crédit, quand les particuliers vont au résultat, si j'ose dire, ils s'aperçoivent parfois que finalement le fait de déléguer cet argent qui n'est pas disponible facilement est extrêmement coûteux. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se sont aperçus à l'occasion de ces scandales que finalement, le fait d'avoir de l'argent, je ne vise aucun pays en particulier, oui, se traduisait aussi par des pertes en ligne au bénéfice des intermédiaires financiers. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un avantage fiscal, il y a toujours beaucoup gens qui se précipitent pour en profiter. Donc voilà, je referme cette parenthèse. Alors, sur les paradis fiscaux, comme très souvent, le verre est à moitié plein et à moitié vide. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même, sous les auspices du G20, des progrès considérables qui ont été faits.
Et notamment sous la présidence française.
Notamment sous la présidence française, absolument. Et l'OCDE joue un rôle aussi de fer de lance. Maintenant, c'est toujours un petit peu un jeu de, je dirais presque de cache-cache. C'est-à-dire que les normes qui ont été imposées aux paradis fiscaux pour sortir des listes grises ou noires, ces normes ont été appliquées très souvent à minima par la signature de conventions avec des petits états. Et donc, au-delà de la lettre des textes, il y a encore tout un enjeu d'application considérable. Alors, je sais que le forum sur les paradis fiscaux est très mobilisé là-dessus, travaille notamment sur les champs importants que constituent les instruments juridiques qui entretiennent l'opacité, comme les trusts. Il y a une récente initiative de l'OCDE aussi qui vise à conseiller les États en développement dans leur relation avec les grandes entreprises, parce qu'il y a toute une série de dispositions, comme par exemple les prix de transfert, qui très souvent jouent en défaveur des États qui sont mal outillés pour faire face aux grandes entreprises. Donc, il y a des progrès dans un certain nombre de domaines, mais on est encore au loin du compte.
Donc, c'est un petit peu la synthèse de ce que vous dites dans ce rapport, c'est qu'en fait, ça ne s'est pas complètement dégradé, mais il faut toujours rester l'arme au pied, et en tout cas extrêmement vigilant, car... Il y a de nombreux facteurs qui peuvent continuer de favoriser cette criminalité et les délits financiers.
Il y a un dernier sujet sur lequel il y a eu des évolutions très positives, c'est la question des biens mal acquis. C'est-à-dire l'argent des dictateurs dans un certain nombre de pays qui trouvaient facilement refuge dans les pays notamment de la zone euro. Et une décision de la Cour de cassation, un certain nombre de mesures et la vigilance de certaines associations font que ça devient de plus en plus difficile. Et donc la perspective de voir revenir ces sommes considérables qui ont été détournées dans les pays devient un peu plus crédible. Mais il y a encore une mobilisation internationale à assurer pour obtenir...
Et ce sont des opérations qui sont très médiatisées et qui certainement doivent frapper l'opinion publique dans le sens de l'exemplarité. Alors... Maintenant, après ce grand chapitre, donc on laissera nos auditeurs découvrir cet ouvrage extrêmement complet et volumineux, donc qui traite de tous les aspects de la criminalité et des délits financiers. Quelques réflexions un peu plus axées sur les aspects purement éthiques. Enfin, c'est la deuxième partie de votre ouvrage. Et notamment sur la crise de la dette souveraine. Alors, vous parlez de sa gravité et vous parlez des modalités de traitement de cette dette souveraine. Alors, à aujourd'hui, alors qu'elle est en plein dans l'actualité encore, hélas, avec la Grèce et les États européens, quel est votre sentiment ? On est toujours dans la crise de la dette souveraine ou vous êtes un peu plus optimiste lorsque vous regardez devant nous ?
Écoutez, on est encore malheureusement au cœur de la crise et il y a une double dimension. Il y a la dimension des banques en tant que telles qui ont été naturellement directement affectées, mais il y a la dimension aussi des États et dans leur capacité à rembourser la dette. Et ces deux crises, je dirais, s'auto-entretiennent. Parce que finalement,
c'est
pour une part les concours des États aux banques qui ont contribué à aggraver significativement l'endettement public. Et maintenant, c'est les difficultés de remboursement des États de leur dette publique qui plombent en quelque sorte les bilans des banques en obligeant à des renégociations. Donc on est encore au cœur de ce cercle un peu vicieux et... On voit bien avec les derniers soubresauts liés à la crise de la Grèce que on a encore beaucoup de chemin à faire pour...
On est encore effectivement au cœur de la crise. Quoi. Hélas, on ne sait pas encore très bien ce que demain sera fait. Alors, vous abordez donc dans cette deuxième partie de votre ouvrage aussi les aspects de financement prioritaire du long terme et de renforcement de la réglementation financière. Alors, du côté de la réglementation financière, les États-Unis ont beaucoup avancé avec la nouvelle réglementation. C'est Dodd, c'est ça, hein ?
Absolument. Oui.
Vos observations sur ces aspects ?
Écoutez, les Américains ont avancé dans un certain nombre de domaines, mais pas dans tous. Par exemple, un sujet sur lequel ils sont notoirement en retard, c'est en matière de contrôle des bonus. Et puis, pour tout ce qui concernait le shadow banking, pour faire très court, ils étaient très en retard. Je note qu'ils étaient relativement en avance dans le domaine de la distinction des activités. Vous savez, un peu le retour sur le Glass-Steagall Act en distinguant activités de spéculation pour compte propre et les activités classiques de banque. Il vient de se passer quelque chose de très intéressant avec un nouveau scandale qui a touché JP Morgan, qui était le vaisseau amiral de la finance américaine, qui était aussi le fer de lance de la contestation de ces règles, paradoxalement. Et donc, le lobby de Wall Street se trouve complètement pris à contre-pied par ce scandale qui manifeste le fait qu'une fois de plus, même les plus grands établissements, les plus sophistiqués, peuvent se faire prendre au piège et donc donne implicitement raison au souhait du régulateur d'aller... un peu plus loin dans le contrôle et dans la restructuration de ce secteur, avec toujours le risque d'aller trop loin, de paralyser certains acteurs par un surcroît de réglementation. Et c'est la fixation de ce curseur qui est un exercice extrêmement difficile.
Voilà, alors c'est toujours une course effrénée entre le gendarme et le voleur, on va dire, donc la réglementation et les acteurs qui, d'un côté, ont besoin d'une forme de réglementation, mais détestent par ailleurs totalement cette réglementation.
Et on a besoin de banques pour financer l'économie.
Absolument.
Et donc, dans certains domaines, on a parfois l'impression qu'à charger trop la barre, qu'on va se créer d'autres problèmes.
Alors, dernier point, et on terminera peut-être sur cet aspect, vous traitez de la générosité publique, de la nécessité de la générosité publique. Et vous abordez les moyens de développer cette générosité, la philanthropie en quelque sorte. Alors pourquoi et comment ?
Alors ce qui a été frappant pendant longtemps, c'est qu'on faisait appel à la générosité du public, mais on faisait appel aussi à la confiance du public. Hein, quand on compare la réglementation sur la protection de l'épargne publique, quand vous placez votre argent auprès d'un intermédiaire financier, cet intermédiaire doit respecter toute une série de règles extrêmement contraignantes. En matière de générosité publique, il y avait une forme d'acte de foi quand on apportait un chèque à telle ou telle ONG. Et donc, des progrès ont été faits dans ce domaine, notamment sous l'égide du comité de la charte, puisque maintenant, les plus grandes associations sont agréées. Mais bon, l'enfer est dans les détails. Il y a toujours des progrès à faire, parce qu'on n'est quand même pas dans le même degré de professionnalisme que dans le domaine de la protection de l'épargne. Donc, on a voulu constituer en quelque sorte un petit dossier pour manifester cette dimension du contrôle, qui est absolument importante sous l'égide du comité de la charte, puis aussi pour apprécier les différences entre, par exemple, la France et les pays anglo-saxons dans la mise en œuvre de la générosité publique. Et là, on constate beaucoup de différences, un état d'esprit, une culture. Les Français ont parfois tendance à trouver qu'ils contribuent déjà indirectement par l'intermédiaire de leurs impôts et se montrent globalement plutôt moins généreux, avec pourtant un cadre fiscal extrêmement favorable. Et donc, c'est un sujet d'interrogation.
Mais ce que vous dites, c'est qu'en fait... on peut anticiper sur une forme de désengagement de l'État et que cette générosité publique est maintenant, devient extrêmement nécessaire.
Alors ça c'est une dimension en partie liée à la crise. On voit bien que l'État-providence est quand même, va se serrer considérablement la ceinture. Il va falloir qu'il soit relayé par les contributions des citoyens, ce qui est une petite révolution culturelle.
Voilà, donc aux Français de faire leur propre providence.
Et à l'État à commencer par se serrer la ceinture.
Voilà, donc Antoine Mérieux, merci. C'était donc vos commentaires sur la parution de ce grand classique, le rapport moral sur l'argent dans le monde, 2011-2012, la lutte contre la criminalité et les délits financiers, les grands enjeux de la crise financière, qui donc comporte 472 pages pour un prix de 31 euros. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver sur notre antenne.
Mais avec grand plaisir.
À très bientôt.